Donc, je vous rappelle qu'on va parler des sombres contes de fées. Je suis en bonne compagnie ce matin avec deux de mes amis et collègues que je vais présenter. Ici, au bout de la table, Marion Gingras-Gagné, qui a terminé tout dernièrement sa première année de doctorat en études littéraires. Bravo!
Dans le cadre de... Hier, pour être précise.
Oh yes! Bien, officiellement. Et dans le cadre de sa thèse, elle s'intéresse à la représentation des corps féminins performés en littérature québécoise contemporaine. C'est une fan inconditionnelle de Harry Potter. Elle adore les réécritures contemporaines de contes de fées où il n'y a pas de mariage à la fin et souhaite de tout cœur la sortie d'une prochaine saison de Outlander. On te le souhaite, Marion. Et j'ai ici à ma droite Pascal Laplante-Dubé, qui est étudiante au doctorat, qui vient de terminer sa première année, si je ne me trompe pas.
C'est dans un mois, en fait.
OK.
Pas tout à fait.
Soon, ça lâche pas. dans le cadre de ses recherches, elle s'intéresse au lien entre littérature de l'imaginaire et féminisme. Elle collabore à l'émission Les Amazones, qu'on vous suggère aussi fortement d'écouter sur les ondes de choc.ca. Elle est également membre du comité de rédaction de la revue Féminitude et directrice d'articles à la République du Centaure. Elle est connue aussi pour son obsession notoire des dragons, qui est son sujet de thèse, et des chats. Donc, voilà, Pascal Laplante-Dubé et moi-même, qui est Fanny Demeul, qui est étudiante ici au doctorat, chargée de cours aussi au certificat en scénarisation. Je suis aussi accessoirement auteure et scénariste, donc ma vie se partage entre la recherche et la création et la bouffe végane, disons. Donc, c'est ça, on est les trois qui vont vous parler de la grimification. Et effectivement, j'avais envie de reprendre la définition que nous propose TV Tropes, juste pour vraiment voir comment ça se situe dans cette encyclopédie-là, comment on la définit. Il est de notoriété publique que la plupart des contes de fées traditionnels ont été conçus pour informer les enfants, par métaphore, d'un monde potentiellement dur à une époque où les enfants travaillaient et voyageaient et étaient essentiellement traités comme des adultes miniatures plutôt que des enfants. Mais à l'origine, les contes de fées étaient racontés à de nombreux publics différents, y compris les adultes, et étaient généralement de simples contes populaires destinés à divertir les paysans plutôt que d'enseigner des leçons. Ce n'est qu'après avoir été enregistrés pour la première fois par les premiers folkloristes, on a parlé de Grimm, des frères Grimm tout à l'heure, que les récits ont acquis une moralité et finalement des terminaisons faciles pour les enfants qui ont permis de supprimer la violence graphique et de transformer les terminaisons cruelles en karmiques. Il devient populaire de ramener une histoire, à ses racines non assainies ou de pervertir la version populaire de Disneyfield. D'ailleurs, la Disneyfication est qualifiée sur TV Trope comme étant le contraire de la grimification. Et on a parlé tout à l'heure des subtropes darkier et agier qui sont reliés à la grimification. Donc, c'est ici la définition de TV Tropes. Maintenant, les filles... Je vous demanderais deux petites choses, soit de vous présenter plus en profondeur par rapport au sujet dont on parle aujourd'hui, donc qu'est-ce qui vous intéresse plus comme angle à travers tout ça, et aussi peut-être de proposer votre vision de votre côté, votre vision personnelle de la grimification, assombrissement des contes de fées. Donc, si tu veux commencer, Marion.
Bien, je veux bien commencer. Dans mon cas, c'est vraiment... En fait, je m'intéresse aux contes de fées depuis quand même quelques années, donc dans le cours de ma maîtrise, comme ça a été mentionné. Je m'intéressais aux reprises de contes de Cendrillon, entre autres. Et en fait, mon constat était plutôt qu'il n'y avait pas tant de changements que ça dans les réécritures de contes pour enfants et que tout le monde se mariait toujours à la fin. Et finalement, il y avait une espèce de mouvement vers la fameuse fin heureuse, donc le happy ending, qui était un peu le... motif un peu de la dignification des contes. Dans mon cas, ce qui m'intéresse, c'est donc le retour en fait qui a été fait, on en a parlé, aux contes de Grimm, qui sont, oui, ça a été donc collecté en fait de la culture populaire, mais c'est des contes qui sont beaucoup plus sombres que ceux de Perrault, par exemple. Si on prend la version de Cendrillon, de Perrault, finit bien, tout est heureux, alors que chez Grimm, il y a quand même beaucoup plus de... Il y a un côté sombre vraiment intéressant. Entre autres,
plus de charcutage.
Si vous vous souvenez, ben voilà, en fait, donc les sœurs Cendrillon qui vont se couper les orteils, les talons pour entrer dans la chaussure. Puis finalement, c'est le prince, quand il voit le sang qui coule des pieds, qui va se dire « OK, vous n'êtes pas la vraie Cendrillon. » Et à la fin, si vous vous souvenez, dans le fond, c'est les vautours vont percer les yeux des sœurs à la fin, pour un peu pour les punir. Alors que chez Perrault, les deux sœurs sont pardonnées et acceptées à la cour avec Cendrillon. Bon. Donc, c'est vraiment intéressant, en fait, de revenir à... de faire un mouvement contraire à l'aseptisation des contes, en fait, qui a été fait entre autres par Disney, qui propose des contes de manière qui sont vraiment manichéens, qui va valoriser aussi la victoire du héros et, au profit de l'opprimant. Donc, également, en fait, j'ai noté, puis c'est pour ça que j'ai apporté mes deux livres québécois, en fait, donc Trois princesses de Guillaume Corbeil et Les Cent d'Audrey Willemy, que surtout, en fait, chez Trois princesses, il y a comme un processus un peu de critique. J'ai l'impression que le conte utilise la réécriture pour critiquer certains sujets. Puis je finirai avant de passer la parole, Pascal, que le conte, depuis toujours, est extrêmement lié à la société, donc on en a parlé un peu plus tôt, et que j'ai l'impression que la réécriture, non seulement c'est une réappropriation, mais c'est aussi quelque chose qui est extrêmement ancré dans la société, donc qu'elle parle un peu de ce qu'on est en ce moment.
C'est la saveur du moment, exact. Le ton du moment, le mood.
Oui.
Merci Marion. Est-ce que, je vais juste une question avant peut-être d'enchaîner avec Pascal. Est-ce que c'est des textes que tu étudies pour ton doctorat spécifiquement, ces deux-là?
Pas du tout, en fait. Okay. J'ai décidé de changer pour le doctorat, en fait, d'aller vers autre chose. Cela dit, en fait, parce que j'ai travaillé dans le cadre de ma maîtrise sur des contes pour enfants et je trouvais que ça manquait un peu de matière. Je voulais aller ailleurs. Cela dit, ces deux, entre autres, ces deux versions-là ont beaucoup de jus pour étudier, mais ça va rester à côté, donc, de mon sujet principal.
On va sûrement en reparler tout à l'heure, plus en profondeur. Alors, Pascal?
En fait, personnellement, c'est ça, le darkening et les contes, c'est pas exactement mon sujet de recherche, donc je m'intéresse plutôt aux mythes et à la monstruosité féminine. Donc, pour pouvoir revenir sur toute cette notion de monstruosité féminine tout à l'heure, c'est quand même des champs connexes à ce dont on va discuter aujourd'hui. La façon dont j'aborde ça, c'est plus du côté de la lectrice que je suis. Donc, qu'est-ce que ça fait au niveau de la lecture? Et ce qu'il faut dire, c'est que j'ai grandi en parallèle, en fait, avec deux types de contes. C'est-à-dire la première, qui est cette fameuse version Disney qu'on connaît tous et toutes. Et ensuite, il y a eu la version des livres de contes de fées qui était plus des récits folkloriques. Donc, c'était pas nécessairement les Frères Grimm, mais je me rappelle très bien la version de La Petite Sirène d'Andersen qui n'était pas exactement la même chose et qui permettait de jeter un regard très différent sur les personnages. Donc, c'est pour ça que les contes, en fait, avaient pris pour moi à cette époque-là plus quelque chose qui tenait de l'avertissement. Ça pouvait aussi quelque chose de triste. Donc, ce n'était pas Disney, on pouvait échouer et l'histoire n'avait pas toujours une fin heureuse à l'américaine. Donc, ce qui est intéressant, par contre, c'est que ces contes-là, pour moi, sont arrivés en deuxième dans mon processus de lecture. Et par conséquent, il est élu par le discours sur le discours de Disney, donc qui est quand même le discours hégémonique sur les contes. Et j'ai l'impression, en fait, qu'on peut pas, ou c'est très difficile du moins, de lire les contes aujourd'hui sans ce filtre de Disney, donc sans ce cadre de référence-là. Donc Disney, oui, c'est une reprise, une réécriture très libre, une Disneyfication, de récits, de motifs formels, structurels, folkloriques, mais si les contes en fait contemporains angoissent, il semblerait que c'est parce qu'ils renversent justement cette conception-là du happy end américain. Donc, conte promis n'arrivera pas nécessairement. Donc, pour moi, en fait, le darkening, il y a vraiment ce côté-là, dans le fond, une manière de réexaminer des tropes, des archétypes, des genres, d'en amplifier certains aspects en les obscurissant. Et pas nécessairement dans un but critique. Donc, il y a quand même le but critique que Maria a mentionné tout à l'heure, que je trouve très intéressant. Mais il semblerait, j'ai l'impression que ce ton-là est parfois un peu mal dosé. Donc, il y a des autoristes qui passent à côté. Bon, les processus d'écriture sont parfois visibles, un peu trop poussés. On peut passer de cette réexamination des tropes à un questionnement plus sur le bon goût. Donc, qu'est-ce qui devrait être écrit, qu'est-ce qui ne devrait pas l'être, plutôt que de se questionner sur comment est-ce qu'on peut revisiter et réexaminer ce trope-là, ces stéréotypes-là. Donc, c'est un peu la réflexion qui m'est venue à ce sujet-là.
Fort intéressant. Je vais me permettre de poursuivre un peu avec mon point de vue sur l'assombrissement, qui rejoint un peu
un peu de ce que vous avez dit les deux d'une certaine manière. Pour ma part, je suis pas non plus une spécialiste des contes de fées, mais j'ai eu l'occasion de me pencher un petit peu sur la question dans ma thèse que je fais sur les figures de guerrières en culture pop contemporaine. Et une des auteurs que j'ai eu la chance de lire, c'est Sarah J. Maas, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. J'en ai parlé à quelques reprises aussi dans des colloques, des communications que j'ai données. Elle m'intéresse particulièrement parce que c'est une réécriture plutôt indirecte de certains contes de fées ou de certaines légendes et même certains mythes. Et c'est une auteure de Young Adult Fantasy. Et la Young Adult Fantasy, pourquoi ça m'a intéressée pour ma thèse, c'est qu'il y a, il y a énormément de guerrières. C'est comme la nouvelle figure pour les jeunes adultes, c'est la jeune femme qui va se battre. Puis on le voit aussi dans les films, on a vu Blanche-Neige, en fait Snow White and the Huntsman récemment. On a vu Hansel et Gretel aussi, Gretel qui devient une chasseuse de sorcières avec son frère pour se venger. Donc on a vraiment beaucoup de jeunes héroïnes qui sont des guerrières de contes de fées. Donc, on reprend les princesses et on en fait vraiment des femmes armées qui sont là soit pour se venger elles-mêmes ou sauver leur royaume. Et c'est le cas des héroïnes de Sarah J. Maas. C'est vraiment des réécritures très, 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 très libres de certains contes connus. Par exemple, sa première série, Throne of Glass, qui en est à son xième tome, je pense qu'elle s'est rendue son septième tome, qui est paru cette année. Sarah J. Maas est fan de Cendrillon de Disney. Et en réécoutant Cendrillon et en écoutant surtout la musique, l'espèce de ton un peu tendu de Cendrillon quand elle quitte le bal lui a fait imaginer une Cendrillon qui irait au bal non pas pour aller rencontrer le prince, mais plutôt pour aller l'assassiner. Et c'est de cette idée-là, de la divagation de son imaginaire par rapport à la musique, l'espèce d'aspect sombre. Puis c'est vrai que ce bout-là dans le Cendrillon de Disney est un peu comme stressant et anxiogène. Ça l'a fait imaginer une femme guerrière et finalement, elle a imaginé son héroïne assassine Selena dans Throne of Glass. Donc, ça part de cette prémisse-là qui est celle de Cendrillon pour finalement récupérer différents motifs du conte original. Par exemple, glace, le verre, le soulier de verre, le château. Donc, il y a vraiment plusieurs motifs et tropes du conte d'origine qui sont repris et qui sont non seulement assombris, mais vraiment mis d'une manière à apporter une héroïne qui est plus agentive que passive à travers son cheminement. Donc, on est vraiment dans un... C'est vraiment, comme je disais, une réécriture indirecte qui part vraiment de petites pierres du conte original pour vraiment aller l'amener ailleurs, dans un monde de dark fantasy. Et du côté de sa deuxième série, A Court of Thorns and Roses, qui, elle, s'inspire, on pourrait dire, à prime abord, de La Belle et la Bête, mais en fait, elle plonge vraiment dans un conte encore plus ancien qui vient des Scottish Borders, qui s'appelle Tamlin. Tamlin, qui est d'ailleurs un des héros de la série A Court of Thorns and Roses. Et donc, Tamlin, c'est l'histoire d'un prince qui se fait changer en bête par la Reine des Fées et qui va être délivré de son sort par l'amour véritable d'une jeune femme. Donc, c'est ce qui va arriver à l'héroïne dans cette série-là. Sauf que ce qui est intéressant ici, dans cette série-là, comme dans Throne of Glass, c'est qu'on vient montrer un peu l'hypocrisie des contes qui ont été édulcorés. C'est-à-dire que, finalement, Tamlin va véritablement se transformer en prince suite à l'amour de l'héroïne, mais malgré le changement de son apparence physique, va demeurer quand même une bête. Donc, ça va demeurer quand même un prince pas charmant, donc vraiment un jerk, un gars qui fait vraiment de la violence physique et abusif avec la jeune femme. Et finalement, le récit de Feyre dans A Court of Thorns and Roses, c'est le récit d'une femme qui s'émancipe d'une situation conjugale violente. Donc, on sert du conte premier pour montrer à quel point c'est hypocrite de dire comme un homme, plus tu l'aimes, plus il va s'adoucir, plus il va devenir une personne décente et gentille et empathique. Alors qu'ici, on montre que c'est complètement faux. Et finalement, le fameux méchant, le fameux dark boy, puis il est littéralement dark, là, il est présenté comme un homme aux cheveux noirs et mystérieux, c'est le roi du royaume de la nuit, tu sais. C'est finalement lui qui est comme le gars gentil qui va aider à la reconstruction de la protagoniste. Donc, on vient vraiment un peu subvertir et proposer aussi bon, des choses un peu plus dark, au sens qu'il y a plus de violence. On a, des, comme je l'ai mentionné, des héroïnes qui deviennent des guerrières. Mais en même temps, c'est là où je nuancerais l'assombrissement, c'est qu'on montre des choses plus atroces, entre guillemets, pour apporter une certaine lumière sur des choses, justement, qui étaient dark à force d'être trop rassurantes et à force d'être hypocrites. Donc, je trouve que c'est un peu plus comme lever le voile sur un assombrissement qui avait été fait sur des tabous sociaux. Et en cela, ça apporte une sorte d'illumination ou un enlightenment sur des trucs qu'on n'osait pas aborder ou qui avaient été censurés dans les contes. Donc, et ça s'adresse, comme je l'ai dit, à des jeunes adultes. Je vous dirais que la moyenne d'âge des actrices et des lecteurs de Sarah J. Maas, c'est de peut-être 14, 15 à peut-être 30 ans. T'sais, maintenant, Young Adult, c'est vraiment super extensif. Il y a beaucoup, beaucoup de lectrices en ligne. T'sais, il y a des gros fandoms de ces univers. Sarah J. Maas, c'est vraiment New York Times bestseller. C'est comme une des autrices de littérature jeune adulte les plus populaires en ce moment. Puis, un peu comme a fait Suzanne Collins avec Hunger Games, il y a toutes sortes maintenant d'héroïnes un peu dérivées de ces héroïnes à elle. Hein? Donc, elle a sorti un peu comme un genre de trend d'héroïne guerrière en fantasy jeune adulte. Et donc, elle a vraiment un fandom assez, assez âgé, je dirais. T'sais, on pourrait vraiment croire que c'est des récits pour adolescentes, mais il y a beaucoup, beaucoup de lectrices, comme je vous disais, qui ont vraiment mon âge. Donc, fin vingtaine, début trentaine. Puis c'est une question qui m'intéresse, vous me direz aussi ce que vous en pensez, les filles. C'est le fait que l'assombrissement des contes de fées vient peut-être avec une... comment dire? Un élargissement du public ou même une réassignation des contes pour un public qui est plus âgé, étant donné que les rites initiatiques, par exemple, partir du foyer parental, être en couple ou en relation de plus longue durée, ça vient plus tard que, par exemple, il y a 100, 150 ans, où toutes ces étapes-là de la vie se passaient plus jeunes, et le fait qu'on réassigne les contes à un public jeune adulte plus âgé, je me demandais si c'était pas justement, ça venait pas avec les thématiques peut-être plus matures qui sont abordées. Donc, ça rejoint un peu la question que tu te posais tantôt d'emblée, Marion, en disant, je trouvais ça fort intéressant, que veux pas, ça s'imprègne aussi de comme qu'est-ce qui se passe en société. Puis je sais pas si le fait que toutes nos étapes de la vie sont vécues plus vieilles, ça vient pas aussi avec cet aspect-là des contes pour personnes plus âgées.
C'est intéressant parce que à la base, le conte, donc c'est oral, donc il est transmis, il est raconté de manière orale. Et la thématique, en fait, du conte oral, c'est vraiment de montrer, en fait, la voie à suivre et le passage à l'âge adulte. Donc, les contes oraux traditionnels montrent, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour être agrégé dans la société et, bon, se marier, donc, prendre un peu un rôle social. Et, je veux dire, les personnages des contes oraux ne sont pas si jeunes que ça, quand même. Donc, on parle du passage à la vie maritale, alors que, bon, avec Perrault, entre autres, ça s'est vraiment transformé. Donc, les contes sont beaucoup plus adressés à des enfants, il y a des moralités, tout ça. Il y a comme un déplacement, parce que même les contes d'aujourd'hui, les contes de dîner, par exemple, c'est des personnes qui vont se marier. Je veux dire, c'est pas des filles qui sont si jeunes que ça, finalement. Mais...
Je trouve ça super intéressant, en fait. D'ailleurs, merci de m'avoir réconciliée, en fait, avec le second, le Court
of Thorns and Roses, qui est un bon tongue twister.
Oui, bien, c'est ça, effectivement. La raison pour laquelle, justement, j'avais abandonné ma lecture, c'était justement pour ce côté qui est là aussi dans les contes, c'est que tu dois accepter cet homme-là qui te fait du mal, finalement, et tu dois accepter ce monstre, d'une certaine manière. Qui est plus reconduit dans le premier tome, mais si j'en déduis de ce que tu me dis, c'est vraiment, ça change.
Ça fait miroiter ça. Ça fait oui, comme, OK, ça. Ben, conne, genre, c'est comme, voyons. Tu sais, on a la même réaction que quand on comprend pas pourquoi quelqu'un reste avec quelqu'un de violent, mais finalement, c'est exposé, tu sais, c'est la manipulation psychologique.
Mm-hmm. Oui, c'est ça, et tu dois l'accepter même si tu ne vois pas son visage, tu sais pas à quoi il ressemble, donc c'est... Je trouve ça particulièrement fascinant, surtout au regard de MeToo, ce qui se passe dernièrement. Donc, on a beaucoup de choses socialement qui sortent, qui sont discutées. Et ça précède un peu. Donc, ça permet de voir que quand même dans la fiction, dans ces contes-là, il y a des voix qui s'élevaient et qui probablement pavaient le chemin à ce qui est en train, à tout ce mouvement social-là présentement. Donc, ça rejoint ce que Marion disait aussi, les contes parlent de notre société, ça parle de nous maintenant, mm-hmm. et c'est pour ça probablement qu'on les réécrit. Mm-hmm. Autant, justement, pour les emmener ailleurs.
Je suis tellement d'accord avec, avec ce que vous dites, les filles. Puis, tu sais, il y a des autrices derrière ces réécritures de contes-là qui sont assumées en posture de « je veux le faire », justement, mm-hmm. pour les femmes qui ont été maltraitées dans ces contes-là, tu sais, et les femmes qui sont maltraitées dans le réel. Tu sais, Sarah J. Maas l'affirme que c'est ça la mission un peu de ses livres. C'est, oui, de proposer des récits intéressants, mais c'est aussi de proposer des... femmes qui sont capables de s'en sortir, tu sais, qui sont capables de se reconstruire, qui sont capables de prendre les rênes de leur vie. Puis Marie Demers aussi, on en parlait tout à l'heure en dehors du micro avec Marion. Marie Demers qui a proposé deux réécritures de contes. Si je ne me trompe pas, il y a Le Petit Chaperon Rouge et Peau d'âne.
Et viennent Petit Capuchon Vert, Petit Capuchon Bleu et Peau de Vache, que j'ai lu récemment, puis c'est une parenthèse parce que c'est pas vraiment des contes qui sont dark, mais c'est des réécritures de contes pour enfants qui sont extrêmement intéressantes. Je vous invite vraiment à les lire. C'est une des meilleures réécritures de contes que j'ai lues jusqu'à maintenant parce qu'en fait, il y a vraiment un travail qui est fait justement sur les motifs du conte dans une volonté de transgresser enfin les patterns puis les tracks du conte de fées. Donc, il y a personne, évidemment, qui se marie à la fin. Et on encourage les jeunes filles à s'émanciper, mais aussi juste à voyager et à vouloir autre chose. Puis évidemment, il y a toutes sortes de sujets qui sont abordés, entre autres donc la possibilité d'une identité trans, les modèles familiaux non traditionnels. Donc vraiment, je vous invite à les lire.
Je ne les ai pas lus encore, mais c'est Marie Demers quand même. Donc, oui. Puis j'ai lu aussi des très bonnes critiques à ce sujet-là. Bien, j'aurais envie d'ouvrir une autre petite porte qui est un peu connexe à ce dont on parle. C'est pas nécessairement lié avec la mission, par exemple, des autrices derrière leur texte, mais c'est plutôt lié au mode d'écriture. Donc, je me demandais si de sortir le conte de la forme du conte, justement, en proposant des séries, des romans, des séries télévisées ou de films, il n'y aurait pas moyen, justement, de démanteler, puis... C'est peut-être par là que vient entrer une forme d'assombrissement, étant donné qu'on a plus de nuances qu'on peut venir apporter, il y a plus de territoires qu'on peut aller explorer. Puis je pense que le mode traditionnel elliptique du conte, il y a peut-être une espèce de moment où on vient un peu tourner les coins ronds et proposer des choses justement qui sont plus manichéennes, alors que quand on vient déplier, c'est là qu'on peut peut-être voir un peu ce qui se cache derrière.
Nuancer, remplir les blancs, finalement. Mais c'est aussi avec différentes manières. Donc, on a l'image. C'est sûr que je pense dans les contes traditionnels, est-ce qu'il y avait ça, des images, des gravures?
Je ne saurais pas dire. Je sais qu'il y a eu Doré, Gustave Doré, qui a aussi illustré d'autres contes. Mais c'est pas mal la seule chose, je pense, qui a été fait avant les protons contemporaines, j'ai l'impression.
Mm-hmm. C'est vrai, la question de l'image. Il y a quelque chose qui joue sur ce plan-là, parce que je pense que dans l'imaginaire collectif, les contes sont associés aux images. Mm-hmm. À la base, c'était des récits oraux, souvent qui viennent des traditions païennes. Mais c'est ça, de fil en aiguille, c'est devenu vraiment lié à l'image, ne serait-ce aussi que par le monde de l'enfance et la dignification, qui ont posé un peu comme les canons des images.
Oui.
Puis ça me fait penser aux fameuses images de princesses qu'on a vues. Bien, c'était plus en 2016-2017. Il y avait un trend de genre les princesses dessinées à toutes les saveurs possibles et imaginables. Puis il y en a beaucoup qui c'était comme lié à de l'extrême violence. Puis ça m'a comme fascinée. Je sais comme pourquoi on a besoin de les mettre dans les positions les plus scabreuses ou violentes ou dégradantes. C'était comme vraiment genre... Ça allait loin des fois. Fait que je sais pas, ça m'a comme fait poser des questions. Pourquoi on a besoin de devoir plonger dans l'extrême perversion, les symboles de pureté, si on veut, de la culture pop. Puis, tu sais, je fais vraiment du coq à l'âne, mais ça m'a fait penser tantôt quand tu as nommé Spring Breaker. Harmony Korine, son but, en prenant un casting des filles les plus comme pures, genre de Hollywood, par exemple Ariana Grande, c'était justement de les voir sombrer dans la plus grande déchéance et en tirer une sorte de plaisir. Fait que moi, ça vient me poser des questions. J'ai vraiment pas de réponse formulée à fournir à ça, mais ouais, ça me fascine de voir cette idée-là de défaire ou d'enlever un peu les petites ailes de libellule, genre à ces petites princesses-là. Ouais.
Je me demande s'il n'y a pas aussi une forme de reconduction là-dedans, justement, d'une espèce de dichotomie ange-démon qui est vraiment associée au féminin, quand on parle des féminins normatifs, donc le normatif qui est plus angélique, qui écoute, qui se soumet d'une certaine manière à l'autorité, et celle qui, au contraire, ne le fait pas, qui est plus en marge, mm-hmm. qui est plus dégradée, si on veut, d'une certaine manière, là, disons, dans une perception patriarcale, ouais. là, d'une espèce de dichotomie binaire de la féminité.
On pourrait dire qu'elle est unruly, ingouvernable. Mm-hmm. Si on s'extrait de la pensée binaire de oui. comme perversion et genre perfection, mm-hmm. pureté, on serait de l'ordre de l'ingouvernance.
Oui, c'est ça. Puis il y a toute une performativité, une performance de la monstruosité qui peut être jouée à ce niveau-là, d'une monstruosité féminine réappropriée
mm-hmm.
à ce niveau.
Qui est émancipatrice en soi, c'est de montrer comme...
Tu peux l'être, c'est oui, ça. Dépendamment.
Dépendamment, c'est ça, comment c'est tourné. Comme tu l'as dit tantôt, des fois, c'est peut-être pas du point de vue critique, mais pour le simple plaisir de comme, mettre du gore ou de l'outrance pour,
oui, c'est ça.
Pour du shock value, si on veut.
Il n'y aurait pas non plus un certain... entre autres, dans ce que tu disais, la subversion en fait, des figures de princesse, mm-hmm. est-ce qu'il n'y aurait pas nécessairement un rejet aussi de cette espèce de fin heureuse-là, un peu idyllique, qu'on nous sert hein, à toutes les sauces, dans toutes les comédies romantiques, ou presque aujourd'hui, et qu'en fait, ça va un peu de pair avec la revalorisation de la méchante aussi, hein, mm-hmm. que, on change un peu le plutôt de bord, donc je pense évidemment
on pense à Maléfique,
qui prend le premier rôle du film, puis on s'intéresse enfin à cette méchante-là qui finalement, dans les films de Disney, est toujours... Mm-hmm. perdante et toujours oui. comme un renversement en fait de tu sais, ça voudrait de notre allégeance finalement au personnage on se dit ok c'est bien beau là, les princesses mais
c'est, il y a d'autres personnes
exactement comme représentation
oui il y a autre chose au-delà de la fin c'est cette fin là oui. qu'à 16-20 ans ta vie est finie finalement t'es mariée et voilà donc ça montre ailleurs.
Oui, c'est ça. Puis je trouve que j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de pas rassurant à vouloir être rassurant. Tu sais, c'est un peu ma mission aussi. Je suis vraiment pas dans le compte là, dans ce que je fais comme autrice, mais l'espèce de notion de fin conclusive, happy ending, on fait briller un espoir, tout va bien aller, ça peut, à long terme, créer du dommage. Parce que dans le réel, quand tu prends pour référence les récits dont on t'a nourri où ça finit bien, puis là, tu dis, Chris, ma vie, c'est vraiment de la merde par rapport à ça. Bien, c'est pas le fun. Fait que t'es bien mieux, genre, d'être confronté, tu sais, qui était un peu la mission un peu première des contes, c'est de dire, regarde, il y a du trash, tu sais, puis ça peut mal finir, ça peut ne pas se finir, ça peut juste continuer éternellement et devenir cauchemardesque, parce que c'est ça aussi la réalité.
Exactement, puis il y a quelque chose dans le motif du mariage que je trouve particulièrement irritant, je dirais, c'est que le mariage dans la vie, c'est comme un début, en fait, puis dans le conte, c'est toujours considéré comme une fin en soi, alors qu'il y a quelque chose qui se passe après.
Oui, c'est ça.
Et ça me fait penser à un livre qui a été écrit par un auteur dont je ne me rappelle pas le nom, qui s'appelait... Il vécu heureux et a beaucoup d'enfants et
ouais.
laissant entendre que évidemment il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver mm-hmm. bonnes ou mauvaises après.
C'est ça, des surprises entre autres. Mais c'est fort intéressant je trouve de dire le côté on reprend les héroïnes et on montre aussi différentes potentialités. Et entre autres, peut-être un rétablissement des torts qui leur aurait été imposé dans les contes. Et ben, ça me fait penser, on en a parlé tout à l'heure, mais un livre qu'on a lu, Marion et moi, je ne sais pas si tu le connais, Pascal.
Non, mais je vais le connaître après ça.
Ah, petite présentation, Hunting Girls, qui s'intéresse... en fait, je vous lis le sous-titre, Sexual Violence from the Hunger Games to Campus Rape. Donc, ça inscrit vraiment la culture du viol qu'on retrouve dans les représentations fictionnelles en ce moment à, justement, la culture du viol dont tu as fait mention tout à l'heure, Pascal. Donc, j'avais envie de revenir un petit peu là-dessus. Donc, Kelly Oliver, donc, qui s'intéresse à cette représentation-là de femmes qui se font abuser, mais qui redonnent monnaie de leurs pièces à leurs agresseurs. Donc, c'est vraiment des personnages qu'on voit de plus en plus souvent, hein, dans, par exemple, Hunger Games, Divergent, Anna, je ne sais pas si vous avez vu la petite guerrière de 12 ans là, qui se fait élever par son père dans le bois, Girl with the Dragon Tattoo, donc il y en a vraiment tout plein. Maleficent en fait partie aussi. Donc, c'est intéressant les liens qu'elle tisse entre l'imaginaire et ce qui se passe en ce moment, puis comment des textes, d'une certaine manière, deviennent comme engagés par rapport à ça.
Qui fait justement penser que dans Maléfique, dans Maleficent, il y a une scène extrêmement forte, c'est justement quand elle se fait arracher les ailes, qui est vraiment, en fait, un viol symbolique extrêmement troublant. Donc oui, il y a vraiment, on dirait, certaine critique, une certaine volonté de parler de ces sujets-là aussi, puis de les renverser.
Oui, sans parler, je viens d'allumer, mais pour Maleficent, c'est aussi sa capacité de mouvement qui prend le bord.
Exact.
Et au regard de ça, c'est dans mes lectures, ce que j'ai vu notamment par rapport à la monstruosité féminine, c'est ce qui est dangereux, c'est justement sa capacité à bouger, à justement sortir de ces états-là binaires. Et pour en fait continuer dans les exemples, j'ai allumé hier soir en fait sur un épisode de Supernatural que j'avais vu il y a des années de ça, dans la saison 3, Bedtime Stories, qui reprend finalement, qui est une forme de grimification des contes. Donc on a ces deux frères-là qui arrivent dans une ville où il semble avoir des contes de fées qui sont réactualisés, qui prennent vie, qui prennent forme, qui prennent corps, et de manière assez gore. Parce que bon, c'est Supernatural notamment. Et il y a toute une référence au fait que les contes, à la base, c'était peut-être justement pas ces contes de Disney-là édulcorés, qui étaient vraiment plus darker et edgier que ça. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est l'histoire d'une jeune femme, qui est une petite fille, en fait, quand elle est tombée dans le coma. Et elle rejoue ses contes de fées-là pour relâcher sa colère parce que, bon, son père lui lit chaque jour des contes à son chevet, donc ça fait une vingtaine d'années qu'elle est dans le coma, et elle ne peut pas être entendue. Donc c'est toute cette colère-là de cette voix qu'on étouffe, cette voix féminine-là, cette voix qui a été perdue, qui finalement la rend dangereuse, et c'est cette rejouance, donc cette manière de rejouer les contes qui lui permet de s'exprimer, donc d'exprimer sa rage. C'est pour ça, d'une certaine manière, que ça déborde dans une violence. Bon, au début c'est drôle, après ça c'est un peu moins drôle, mais donc ça rejoint en fait ce qu'on disait depuis tantôt là.
Puis l'intervention de la violence aussi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient quand même assez fréquemment. Je sais pas jusqu'à quel point c'est généralisé, parce que je vous avoue que je consomme pas tous toutes les fictions qui concernent les contes de fées en ce moment. Par exemple, Once Upon a Time, je sais pas pour vous, j'ai jamais écouté. Donc je sais pas jusqu'à quel point ça revient comme souvent, comment c'est générique, mais j'ai l'impression que le puis surtout la femme violente, tu sais, je pense que c'est pas mal ça qui puis ça me fait penser, tantôt tu as parlé de monstruosité aussi, puis je pense que tu avais aussi peut-être envie de parler de la dichotomie femme monstrueuse ou homme monstrué ou monstrueux et vice-versa, qu'il y a des renversements qui peuvent s'opérer entre les deux.
Oui, en fait, c'est ça ce que j'avais observé, c'est notamment dans The Witcher, qui est un autre exemple de grimification, particulièrement le premier tome, qui est un recueil de nouvelles qui reprend des contes, finalement. Et c'est le héros qui arrive et qui, bon, découvre qu'il se passe certaines choses. Et ce qui se passe là-dedans, par contre, c'est que oui, c'est des versions altérées, assombries des contes de fées à chaque fois, mais la plupart du temps, du moins dans ces premiers tomes-là, les monstres sont féminins. Donc, on a, la Belle et la Bête. Donc, la Belle est une espèce de vampire qui vampirise la Bête et qui l'encourage à être encore finalement plus bestiale que ce qu'il était au départ. Ou Blanche-Neige, qui, on comprend, aurait probablement été violentée, violée, qui finalement tue beaucoup de monde avec sa bande de sept nains, qui est plus un peu son boys club à elle, d'une certaine manière, là. Donc, il y a ça aussi, cette dichotomie-là est aussi rejouée au niveau des sorcières qui sont, oui, elles sont très belles, mais on dit qu'elles sont aigries comme des femmes laides, parce qu'à la base, elles étaient laides et la magie les a réparées d'une certaine manière. Donc, elles restent quand même prises dans cette dichotomie-là, une espèce de double altérité, dans le fond, parce qu'elles sont féminines, parce qu'elles sont des femmes et parce qu'elles sont monstrueuses. Donc, il y a beaucoup ça qui est rejoué. Je trouve ça quand même intéressant. J'ai lu un article de Nancy Vegla, donc Images of Evil, Male and Female Monsters in Heroic Fantasy. Donc, c'est sûr qu'on est dans un autre registre. Donc, ça a été écrit à la fin des années 80. Donc, ce qu'elle dit, c'est que c'est une forme, en fait, donc, comme la fantasy peut parler d'un processus de socialisation, d'un coming of age. On a tendance, du moins selon elle, les autrices vont avoir tendance à écrire des monstres hommes qui vont parler plus des angoisses des femmes par rapport aux hommes, et les hommes, en contrepartie, vont écrire des monstres femmes qui parlent des angoisses des hommes par rapport aux femmes. C'est sûr qu'à mon sens, c'est une réflexion peut-être un peu simple, au sens que ça reconduit une certaine binarité, donc ça laisse pas de place à autre chose qu'une espèce d'hétérosexualité obligatoire. Par contre, ça, il y a quand même des pistes de réflexion intéressantes. Bon, aussi, c'est ça, ça ne parle pas des rapports de domination. Donc, évidemment, quand on parle de la masculinité et de la féminité, donc la masculinité est la norme. Et la norme dans les systèmes de pouvoir impose ses lois, ses manières de voir. Donc, oui, c'est binaire, oui, c'est une norme masculine. Donc, pour moi, elle ne parle pas assez de ça dans son article. En fait, elle ne le mentionne pas. Mais il y a quand même des pistes de réflexion très intéressantes. Notamment, ça me rappelle à Monstre, ça me ramène à Monstre et Fantôme, en fait, la table ronde que vous aviez eue, où vous discutiez notamment des différentes expériences féminines. Comment est-ce que ça peut créer finalement une horreur différente en t'inspirant ton vécu? Donc, je trouve ça, il y a quelque chose d'intéressant. Au moins, il y a des belles pistes de réflexion à avoir à ce niveau-là.
Oui, la projection à travers le monstre, la rencontre à travers le monstre en nous via l'écriture. Mais oui, c'est super intéressant ce que tu dis. Puis ça me fait rappeler Sarah J. Maas aussi, qui utilise cette dichotomie-là aussi, homme monstrueux, femme héroïque, mais qui, par moment aussi, va se permettre de montrer des femmes monstrueuses qui sont assumées, qui sont très puissantes et qui sont vraiment en pleine possession de leur pouvoir. Et aussi avec des origines peut-être plus nuancées, tu sais, qui sont vraiment imparfaites. Et c'est ce qui est intéressant aussi. Puis j'ai remarqué aussi que dans beaucoup de romans à succès en Young Adult, on vient proposer justement des héroïnes qui sont un peu plus dark que ce à quoi on s'attendrait. T'sais. Ça reste quand même des figures héroïques qui accomplissent quand même des actes assez nobles, mais avec des personnalités qui sont quand même dans les teintes de gris. Puis ça me fait penser à la tout récente Sabrina. Je ne sais pas si... je déborde un peu du conte de fées, mais ça m'a fait penser à ça tantôt quand on a parlé des sorcières, puis comment on vient peut-être replonger dans une figure qui était à la base condamnée, qui était représentée comme étant monstrueuse, ensuite qui a été un peu édulcorée, par exemple, toutes les représentations de ma sorcière bien-aimée, la Sabrina plus gentille, plus light que dans les années 90, et là, on replonge dans des représentations de sorcières assumées et qui sont correctes comme ça et qu'on prend pour héroïne. Tu sais que c'est plus l'antagoniste, mais c'est comme une réappropriation de la sorcière comme figure héroïque, mais une sorcière, tu sais. On n'est pas en version douce et gentille et sympathique. En fait, elle peut être sympathique et à la fois aussi égoïste et à la fois, tu sais, elle est vraiment plus complexe, mais elle est posée vraiment comme une sorcière. Puis dans le cas de Sabrina, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on vient vraiment reprendre l'espèce d'idée de base de la chasse aux sorcières qui était de lier les femmes qui font de la sorcellerie au satanisme. Donc, on vient vraiment reprendre l'imaginaire de base et on le repose. Et éventuellement, ben, plus la série avance, plus on comprend la corruption du système satanique lui-même. Donc, on vient un peu le démanteler. Mais ouais, la figure de la sorcière, je pense qu'on pourrait passer une heure à parler de la grimification juste sur cette figure-là.
Ben, c'est sûr que dans Sabrina, c'est peut-être un peu... Des fois, j'ai l'impression que c'est un peu trop « in your face ». C'est trop dit explicitement, c'est-à-dire on te le met dans la bouche pour... ça te laisse pas vraiment la possibilité de réfléchir, là.
Surtout la deuxième saison, je trouve.
Donc, mais à ce niveau-là, la première était vraiment beaucoup plus intéressante. Donc, il y avait vraiment, oui, ce darkening-là de cette Sabrina-là que moi, j'avais vu quand j'étais toute petite, toute jeune, à la TV, là. C'était la jolie blonde dans un sitcom américain, donc c'est vraiment un retournement de ça. Là. C'est aussi le sitcom qui est mis à mal.
Oui, c'est ça.
Certains codes, oui.
Puis on vient aussi chercher la Sabrina, qui était le roman graphique, dans le fond, qui préexistait, dans le fond, tout ça. Donc, on dirait qu'il y a toujours cette idée de retourner à la source pour la présenter sous un éclairage nouveau. Je me demandais du côté... des autrices dont tu as parlé tout à l'heure, que tu as présenté, Marion, si tu considères de tes observations qu'il y a peut-être une différence entre la grimification des contes dans la pop culture versus plus un travail comme ça d'autrices québécoises qui ne s'inscrivent pas nécessairement dans la culture populaire.
Et c'est une bonne question. Tout d'abord, il y en a, c'est pas deux autrices, il y a un auteur et une autrice. Ah, donc, je trouve ça intéressant aussi à ce niveau-là. Je ne suis pas une très, très grande consommatrice non plus de séries ou de films de contes de fées. Bon, souvent par manque de temps aussi. D'ailleurs, j'ai très hâte d'écouter Sabrina. J'ai fini ma session hier, donc ça va être du rattrapage éventuellement.
Un beau problème.
Ben, j'ai l'impression quand même, puis t'en as parlé tantôt, Fanny, que le conte de fées... je me suis retrouvée bon, à aller voir l'année passée ou l'année d'avant, il y a Beauty and the Beast au cinéma avec ma sœur, bon, avec Emma Watson, et j'avais été vraiment étonnée de voir à quel point on s'en lassait jamais, en fait, des contes de fées qui étaient réécrits et écrits les mêmes, on les connaît vraiment bien. Puis j'en étais venue à la réflexion que c'est vraiment un matériel, un matériau extrêmement riche, donc vraiment idéal pour réécriture, autant dans les romans que dans les séries, puis tout ça, c'est vraiment... Puis dans le cadre de roman, on peut vraiment aller beaucoup plus loin que dans un simple conte. Ça dépend, en fait, j'ai pas vraiment de réponse. C'est sûr que dans ces livres-là, bon, le livre d'Audrey Willamy est un peu plus... c'est une reprise très, très libre de Barbe Bleue. Et d'ailleurs, Barbe Bleue est un conte qui n'a pas été beaucoup repris. Hein. C'est un conte qui a été un peu tassé, même, dans les réécritures. Même chez Disney, on n'a jamais... En tout cas, dans mon cas, j'ai jamais vu de...
C'est comme s'il faisait trop peur, genre.
Ben, la Barbe Bleue, pour Dan, c'est des contes un peu plus tricky. On n'ose pas trop y toucher, hein, parce que ça touche les tabous, entre autres.
Ouais.
Et la mort, entre autres, et tout ça. Et l'inceste pour
C'est
pour
ça,
Dan,
pour Dan. Que Marie a repris, en fait.
Oui, oui, dans Peau d'âne, dans Peau de vache, c'est la jeune fille qui veut marier son père, en fait, mais comme toutes les petites filles. Donc, c'est un beau renversement qui a été fait. Donc, je fais la parenthèse. Il y a vraiment un travail qui a été fait sur... C'est vraiment un matériel vraiment de base que l'autrice a décidé de prendre pour sauter dans une espèce d'univers qui
qu'elle explore dans chacun de ses romans. Oui. Hein. Si j'ai pas lu encore Audrey Willamy, mais c'est comme à bâtir une espèce de monde fictif.
Un peu avec des relents de contes, justement. Donc, c'est vraiment un matériel qu'elle utilise pour l'univers et ses personnages et tout ça. Dans ce cas-là, c'est vraiment... Guillaume Corbeil, vraiment, c'est plus des reprises qui sont plus collées sur les contes. Donc, c'est La Belle au bois dormant, Cendrillon et Blanche-Neige. C'est sûr qu'il y a une grosse différence avec les séries. Dans ce cas-ci, c'est vraiment... il y a une reconduction très, très critique, justement. On parle de marchandisation de l'image, le corps féminin, dictature de l'apparence et tout ça. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement... voilà, donc c'est utilisé comme matériel critique. Et d'ailleurs, le corps des femmes est extrêmement malmené dans ce livre-là, un petit peu pour contrecarrer peut-être les contes de fées un peu trop léchés de Disney. Donc, je dirais ça, en fait, il n'y a pas tant de réécriture québécoise contemporaine de contes, mais je les trouve quand même vraiment intéressantes à explorer.
Du côté outre-Atlantique, Amélie Nothomb, que vous connaissez sûrement, qui s'intéresse beaucoup à la réécriture de contes. Ben, Barbe Bleue, entre autres, elle l'a repris. Riquet à la houppe. Je pense que chacun de ses livres, ou à peu près, peut-être moins dans son cycle autobiographique, mais tous ses livres de fiction aussi reprennent les contes d'une certaine manière, et souvent aussi de manière assez assombrie.
Exactement.
Ou un peu à la sauce Amélie Nothomb, là, dualité, confrontation, combat.
Mais comme tu en parlais tantôt, c'est pas nécessairement tous les aspects du conte qui sont repris. Des fois, il y a juste des allusions, des personnages. Mm-hmm. Dans ton cas, c'était... la trame du conte était comme en fond de l'histoire, mais
c'est
on
ça.
Voit vraiment ailleurs. Donc, il y a beaucoup, je pense, de réécritures contemporaines qui sont, en fait, de romans qui vont utiliser des motifs ou des trames de contes ou la référence à certains personnages qui sont hyper intéressants.
Puis en tant que lectrice, lecteur, ça nous permet de se positionner, tu sais, par rapport à ça, vu que c'est comme un territoire commun. Ça nous permet déjà d'avoir un certain pack de lecture avec, avec ce qu'on aborde. Donc déjà, ça met un ton, tu sais, ça met comme une genre une armature, une tonalité au reste de la portée. Puis ça vient un peu influencer le reste de la lecture, même si le reste de l'histoire, par exemple, Throne of Glass, ça n'a comme rien à voir là, avec le setup de Cendrillon, mais il y a tellement d'éléments qui renvoient au conte d'origine qu'on n'a pas le choix de décoder un peu en ayant comme point de référence. On ne peut pas comme se l'enlever
exactement.
De la tête. C'est pour ça que je l'ai présenté aussi d'emblée, même si on lit puis on fait « what the fuck », genre, est allé vraiment genre, chercher loin ces affaires de Cendrillon. Mais c'est là quand même. C'est là quand même, on dirait qu'on ne peut pas le tasser.
C'est ce que je trouve le plus intéressant, en fait. C'est quand ce n'est pas un plaquage de bon... un petit conte gentil à la place d'un soulier. Cendrillon perd son pantalon. C'est extrêmement copié. Jusqu'à un certain point, on peut même voir des références à Cendrillon chez Harry Potter, en fait. Donc, il y a quelque chose de très... si on cherche, là, puis moi, c'est ce que j'aime, c'est décoder les contes à travers, sans que ce soit dit. Là.
Oui, c'est ça. Des fois, l'intertexte est assez lointain, mais il est quand même là, tu sais. Mais je vous avouerais que, tu sais, comme je vous ai dit,
j'ai trop pas rapport avec les contes dans ce que je fais comme auteur, mais j'en mets quand même. On dirait que c'est tellement dans notre inconscient, oui. Que malgré nous aussi, des fois, on fait usage des contes pour faire parler ce qu'on veut dire. Tu sais, comme je pense à Déterrer les eaux, j'ai mis un loup sans vraiment penser, faire référence au Chaperon rouge. Et c'est après, comme des relectures, et j'ai comme constaté que j'avais carrément fait une scène de Petit Chaperon rouge sans le vouloir, mais j'ai l'impression que, veux pas, tu sais, c'est tellement imprégné dans notre imaginaire, notre inconscient, qu'on finit par parler cette langue-là. Puis le loup, je pense que c'est peut-être une des images de conte qui revient le plus souvent, puis veux pas, tu sais, les Hunting Girls dont parle Kelly Oliver, c'est vraiment la prédation. C'est la prédation dans la culture du viol, mais aussi la prédation de l'image du loup et du renversement aussi qui s'opère entre la proie prédateur. Puis c'est ça, l'image du loup, l'image de l'ours aussi. Mm-hmm. Mais tu sais, à la base, au Moyen-Âge, c'était vraiment plus l'ours qui était associé à la férocité à cause comme des imaginaires scandinaves. Mm-hmm. Tout ce qui était question du berserker, c'est vraiment le prédateur par excellence. Puis éventuellement, la peur a plus été lié au loup, tu sais, à la figure du loup qui était comme la première menace, genre, de la forêt, mais qui est restée jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, le loup, c'est comme, c'est ça. C'est un peu comme le synonyme de, genre, le chasseur ou l'agressivité, la menace.
Mais c'est vraiment intéressant parce qu'il y a comme un double mouvement. Tout d'abord, en littérature jeunesse, c'est vraiment... comment je pourrais dire? Le loup est vraiment devenu gentil, doux et... je pense d'ailleurs à une superbe reprise du Petit Chaperon rouge. En fait, c'est pas une reprise excellente, mais elle parle beaucoup. C'est qu'à la fin, évidemment, le loup est pardonné et partage un pique-nique avec la petite Chaperon rouge. Donc, en fait, c'est quelque chose de très... Le loup est plus du tout effrayant. Il y a vraiment un renversement au niveau de cette figure-là. J'ai croisé des loups végétariens, donc ils refusaient, en fait, de manger le Petit Chaperon rouge, etc. Donc, il y a vraiment... alors que, mettons, chez Perrault, le conte du Petit Chaperon rouge termine vraiment par la mort... le chaperon rouge fait manger par le loup, alors que chez Grimm, il y a bon, le chasseur qui arrive, qui va ouvrir le loup, etc. Mais on en parlait d'ailleurs juste avant, du fait que le loup était quand même associé beaucoup à la culture du viol et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les contes oraux du Petit Chaperon rouge, hein, qui existent en très, très grande quantité, là, je vous invite à aller voir, il y a certains folkloristes qui ont mis à l'écrit ces contes-là, qui existent en plusieurs versions. Et le loup, en fait, est une figure d'initiation extrêmement positive. C'est avec le loup que la petite fille va s'initier et qu'elle va en fait devenir une femme sur tous les sens du terme. Donc c'est vraiment avec l'altérité en fait qui est construction. Puis il n'y avait pas cette peur-là en fait, de cette altérité-là. Puis je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Pascal, avec cette figure-là
du loup, oui.
Mais du loup effrayant, qui n'était pas nécessairement effrayant.
Il y a une confrontation nécessaire et bénéfique sur le long terme, disons.
Oui, mais il me semble que dans les réécritures de contes féministes, notamment du Petit Chaperon rouge, ce loup-là a justement été réinvesti comme une figure justement initiatrice, mais dont disons que l'approche vient du Petit Chaperon rouge, donc vers le loup. C'est pas le loup qui va faire le premier pas, donc il y a une forme d'agentivité dont le personnage féminin est réinvesti. Je trouve ça intéressant justement ce que tu dis sur le loup parce que, bon, je vais ramener mes histoires de dragon encore une fois, mais au niveau du dragon, il semblerait qu'au Moyen-Âge, c'était justement une figure plus féminine, donc notamment associée à Ève, la pomme, etc., qui a été ensuite masculinisée et perçue par certaines justement comme ce violeur, cet agresseur-là. Et il y a beaucoup de femmes, pas beaucoup de femmes, mais certaines femmes qui vont réinvestir cette figure-là de l'agresseur, maintenant, pour tenir un autre type de discours féministe. Donc, il me semblerait que ça fasse écho à ton loup, là, aussi, notamment, à ce que toi, tu as fait dans Déterrer les eaux, aussi. Ce loup-là qui investit notre imaginaire, qui est là, qui est très présent. Oui. Puis on pense pas à autre chose quand on parle du loup, là. On parle pas que c'est un animal communautaire, grégaire, etc. Là, on parle vraiment de cette grosse agressivité-là.
Le référent est là.
Oui. Ouais.
Ah. C'est ça. Le grand méchant loup aux bien longues dents.
Ouais.
Puis, je vais peut-être conclure avec une dernière question que j'ai envie de vous poser. Tantôt, on parlait du fait que... Antonio parlait du fait qu'il y avait des émissions, tu sais, jeunesse, qui étaient quand même de plus en plus assombries, des contes qu'on vient d'en jaser, qui sont de plus en plus assombris, mais D'une autre manière, j'ai l'impression qu'il y a une extrême légèreté en culture pop en ce moment, ou une genre de d'humour un peu qui est généralisé, ou on est encore, je pense, dans le registre de l'édulcorer à certains égards, puis qu'il y a peut-être encore, qu'il y a encore plus un contraste entre ce qui est vraiment extrêmement léger puis extrêmement sombre. Tantôt, on parlait de la reprise de La Belle et la Bête en live action, mais il y a aussi eu Cendrillon qui a été repris en live action tel quel. Super beau. Je veux dire, c'est comme le film le plus cute de l'histoire de l'humanité. C'est le Cendrillon, genre avec, j'ai oublié le nom d'actrice, bref.
James, je pense.
C'est fou, là, comment c'est lumineux, là, tu sais, c'est comme, ouais, tu sais,
c'est... Bon, c'est un magnifique film.
C'est un magnifique, fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de contes de fées qui sont justement du côté de l'extrême luminosité, qui te font croire, genre, à l'humanité, puis tout. Tu sais, je veux dire, il y a encore des contes très, très rassurants, personnellement, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est comme s'il y avait les deux extrêmes. Quoique c'est peut-être en apparence des extrêmes, mais peut-être qu'ils se rejoignent d'une manière ou d'une autre.
Peut-être qu'ils paraissent comme des extrêmes, justement, parce que d'un côté, on a tout ce côté coloré, puis l'autre côté, on a ce côté très dark, là. Ouais. J'ai perdu mon idée encore. Je suis un peu fatiguée, fin de session.
Moi, il y aurait deux choses, en fait, qui me viennent. Tout d'abord, par rapport à ces fameux contes de Disney, hein, c'est la mode de refaire les contes en prise de vue réelle. Je les trouve magnifiques, mais je trouve quand même que ça reste Disney. Donc, c'est des choses de très... à bien dire qui reste quand même. Puis,
ils ont pas le choix de rester dans leur ligne éditoriale.
Exactement. Puis, je pense pas que le but non plus, ce soit de transformer tant que ça les contes, même si le Beauty and the Beast change quand même certains paramètres qui font que c'est peut-être plus intéressant et plus actuel. J'ai l'impression peut-être que ça reste, parce que le conte à la base, c'est aussi, j'ai l'impression qu'on a besoin de ces contes-là, beaux, qui finissent bien. Il y a quelque chose dans la fin, dans le happy ending qui est très, je sais pas, c'est un monde enchanté, qui finit bien. Peut-être un certain besoin de croire à cet univers-là qui demeure. Tu veux ajouter quelque chose?
Oui, mais j'ai l'impression que ça fait peut-être écho à notre besoin de finitude. De justement avoir cette fin-là, avoir l'impression qu'on est fini, que notre identité est finie, mais en même temps, on est dans une ère où l'identité éclate. C'est peut-être au niveau de l'assombrissement ça qui joue notamment, là, qu'on est toujours en mouvement. Que
L'idée que ça peut être ça et ça, ou ça et ça. Donc le fait qu'il y a comme une sorte d'instabilité qui est insécurisante, d'avoir une chose qui se termine, c'est comme, OK, mais il y a ça aussi qui est peut-être possible, puis ça permet de ne pas sombrer justement dans l'extrême.
Puis le conte est là un peu pour soutenir peut-être, parce que moi, ça me fait toujours penser à une sorte de tendance dans l'industrie du mariage qui est de vraiment miser sur le conte de fées pour valoriser le mariage. Donc, le mariage, s'il est comme un conte de fées, il va être réussi, il va fonctionner. Donc, c'est comme si le conte de fées sert un peu de... d'ancrage symbolique, pour notre besoin de se rassurer que tout va bien aller.
ouais, j'aime ton terme ancrage. C'est comme on devient comme un genre de point de référence qu'on a besoin de ça. T'sais, même si on a peut-être la lucidité de se dire c'est pas nécessairement vrai, mais au moins il y a ça.
Si on y croit.
C'est ça, on y croit. Naïf, mais... C'est ça. Au moins la fiction est là pour nous faire croire l'espace d'un instant, même si on ressort puis qu'on sait très bien que c'est un peu faux cul. Mais merci les filles. C'était vraiment un plaisir de discuter avec vous. Vous avez tellement apporté des points intéressants.